Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, jour 3 des consultations sur le Yémen à Genève, le Conseil de sécurité écoute les commandants de force des opérations de maintien de la paix, le PAM s'active en faveur des réfugiés syriens à la frontière turque, l'OMS appelle à la vigilance face à la montée du coronavirus en Corée du Sud, journée mondiale contre la désertification, en dossier José Ramos Horta présente le rapport d'évaluation sur les opérations de maintien de la paix et coup de projecteur sur la piraterie dans le golfe de Guinée. À Genève, les pourparlers pour le Yémen se poursuivent. Ismail Ould Sheikh Ahmed, l'envoyé spécial pour le Yémen, a espéré que ces consultations permettront de préserver le processus de transition au Yémen, tel que défini par l'accord du Conseil de coopération du Golfe et appuyé par la résolution 2216 du Conseil de sécurité et l'issue du dialogue national. L'envoyé spécial a aussi appelé les parties yéménites à profiter de ces discussions pour réfléchir aux moyens d'améliorer la situation humanitaire. On l'écoute.
Avoir à présent les deux délégations à Genève est un grand accomplissement. C'est le début important vers le retour d'un processus politique. Soyons réalistes, le chemin sera difficile. Mais ce qui est important, c'est de commencer à répondre à la crise sous toutes ses dimensions. Les consultations sont le début d'un processus pour déboucher sur une proposition destinée aux parties yéménites afin d'améliorer la situation actuelle, soulager et mettre un terme aux souffrances humaines. Les discussions porteront, on l'espère, sur l'examen d'un mécanisme de rétablissement de la confiance capable d'augmenter les perspectives de mise en œuvre des différentes résolutions du Conseil de sécurité et de veiller à ce qu'une partie n'abuse pas des compromis acceptés par l'autre.
Et alors que le nombre inscrit de nouveaux arrivants à la frontière turco-syrienne atteint plus de 23 000 personnes, dont la grande majorité sont des réfugiés syriens, le programme alimentaire mondial et les autorités locales s'activent. Ils ont notamment mis en place un programme général d'assistance qui permet de distribuer des cartes électroniques du PAM aux réfugiés syriens dans une vingtaine de camps à la frontière turque, et ce en coopération avec le Croissant Rouge turc Kızılay. Ces cartes électroniques permettent d'apporter un soutien aux nouvelles familles de réfugiés qui arrivent. Elisabeth Birs, porte-parole du PAM.
C'est un programme qui vraiment marche très bien et permet à chaque réfugié, avec 23 $ par mois sur sa carte, d'acheter dans les magasins des camps ce dont ils ont besoin, de la nourriture fraîche, des œufs, de la viande. Et actuellement, avec l'arrivée des réfugiés qui ont passé la frontière dans la région de Sanlurfa, qui sont arrivés récemment depuis le 3 juin à la frontière, eh bien ceux qui se trouvent dans le camp d'Atchakale vont bénéficier, bien sûr, de ce programme de carte électronique alimentaire. Ils en bénéficieront comme les autres réfugiés.
L'ensemble des commandants des forces de casque bleu que compte l'ONU dans le monde se trouve actuellement au siège à New York. L'occasion pour eux de faire le point entre eux sur les défis auxquels ils font face sur le terrain et les moyens d'y remédier. Ce matin, c'est devant le Conseil de sécurité qu'ils sont intervenus dans le cadre d'une réunion sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Parmi les défis soulevés devant les 15, la protection des civils, les conditions imposées par les pays contributeurs de troupes et le problème des menaces asymétriques. On est écoute à cet égard le général de division Michael Lollesgaard, commandant des casques bleus de la mission au Mali.
Alors que nous considérons la plateforme et la coordination comme des groupes armés qui obtempèrent, ce sont principalement, mais pas uniquement, les groupes djihadistes qui sont hostiles envers la MINUSMA. Leurs méthodes préférées sont l'emploi d'engins explosifs improvisés, les attentats suicides, les mines déposées sur nos routes, les embuscades et le bombardement de nos camps avec des roquettes et des tirs de mortier. La conséquence est que la MINUSMA est de loin la mission de l'ONU qui compte le plus grand nombre de victimes parmi les troupes de l'ONU, avec 37 tués et plus de 200 blessés depuis 2013.
La Corée du Sud a annoncé mercredi un 20e décès dû au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. L'Organisation mondiale de la santé précise que 162 cas ont été confirmés et que 6500 contacts ont été identifiés dans le pays. Face à cette situation, un comité d'experts s'est réuni hier par téléconférence sur l'épidémie en Corée du Sud. Dans ses conclusions, publiées ce mercredi à Genève, le comité d'urgence de l'OMS conclut que les conditions d'une urgence sanitaire de portée internationales ne sont pas réunies. L'OMS note toutefois que cette épidémie est un signal d'alarme. Alpha Diallo.
Face à cette épidémie du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, l'Organisation mondiale de la santé conclut en retard et des défaillances dans la réponse de la Corée du Sud. Le comité d'urgence de l'OMS évoque un signal d'alarme et plaide pour une meilleure préparation de tous les pays. En attendant, le comité d'experts a dressé une longue liste de facteurs ayant facilité la propagation du virus à Séoul. Il pointe du doigt le manque de sensibilisation du personnel sanitaire, l'insuffisance des mesures de prévention ou les contacts prolongés de patients infectés dans des salles d'hôpitaux. En gros, l'épidémie a surpris tout le monde en Corée du Sud, ce qui a contribué à la propagation du virus, a déclaré le directeur général adjoint de l'OMS pour la sécurité sanitaire lors d'une conférence de presse mercredi à Genève. Keiji Fukuda a également expliqué que le comité a décidé à l'unanimité que la situation était certes préoccupante, mais qu'elle ne constitue pas encore une urgence sanitaire de portée internationale. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Et en ce 17 juin, nous marquons la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, la journée est placée sous le slogan « On n'a rien sans rien, investissons dans des sols vivants ». Thème qui appelle notamment à changer l'usage qui est fait des terres à travers une agriculture intelligente et adaptée au changement climatique, notamment dans des régions du monde fragilisées par la sécheresse et où les pénuries alimentaires sont de plus en plus graves. Le secrétaire général Ban Ki-moon a souligné que chaque année, nous dégradons 12 millions d'hectares de terres productives, soit la superficie du Bénin. Louise Baker est chargée de coordination des relations extérieures de la Convention cadre sur la désertification de l'ONU.
Lorsque les sols sont dégradés, l'agriculteur a beau s'investir et labourer ses champs, leur rendement sera amoindri. Ce que nous disons, c'est que si vous enrichissez les sols et en prenez soin, ils produiront plus. Nous perdons actuellement environ 12 millions d'hectares arables par an. Alors nous disons que si vous maintenez les terres en bonne condition, investissez en elles et les gérez de façon durable, leur productivité augmentera et la sécurité alimentaire aussi. Et donc la sécurité alimentaire des pauvres qui ont besoin de labourer les champs pour nourrir leur famille sera renforcée.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec la remise mardi au secrétaire général Ban Ki-moon du rapport Nyakahadpal, le rapport final du groupe indépendant chargé d'évaluer les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le rapport, qui contient plus d'une centaine de recommandations portant sur l'amélioration de ces opérations, y compris la prévention des conflits. José Ramos Horta, l'ancien président de Timor-Leste et prix Nobel de la paix, qui a présidé le groupe, était au siège de l'ONU pour le présenter. L'occasion de le recevoir dans nos studios et de lui demander de revenir tout d'abord sur le nom du rapport Nyakahadpal.
J'ai lu cette histoire il y a quelques mois, m'a touché beaucoup. Et c'est une histoire surtout du courage de cette petite fille qui a conduit son père aveugle pendant 4 heures vers un centre de l'UNICEF. Et ça représente d'une part le courage de cette fille, sa maturité, mais aussi la faillite de la communauté internationale, la faillite des Nations Unies, parce qu'on avait célébré l'indépendance du Soudan du Sud il y avait 2 ans, alors d'un moment à l'autre, tout est tombé et a affecté, a impacté la vie de cette fille et des milliers des autres en Soudan du Sud. Alors, l'objectif de nommer mon rapport Nyakahadpal, c'est hommage à cette fille, mais aussi pour de nouveau souligner que les Nations Unies sont là pour les gens, pour le peuple. C'est pour ça qu'elles existent. Pas pour servir les intérêts des États, mais vraiment pour créer des conditions de paix, pour permettre des enfants comme elles de vivre, faire ce que normalement les enfants font, aller à l'école, vivre une vie totalement normale.
Alors c'est un vaste rapport justement qui cherche l'amélioration des opérations de maintien de la paix. Quelles sont les principales recommandations que vous faites dans ce rapport?
Il y a un nombre de recommandations, plus d'une centaine, mais bien sûr il y a un nombre qui sont prioritaires et que le secrétaire général lui-même peut faire exécuter à court terme. Il y a des questions de principes, de doctrines, la politique pour que le Conseil de sécurité adopte une résolution sur n'importe quelle situation de crise, de conflit, il faut toujours avoir comme prioritaire une stratégie politique. Parce que la composante armée, c'est seulement un instrument pour assurer la tranquillité, sécurité, stabiliser la situation. Mais c'est le processus de dialogue, c'est le processus politique qui peut aboutir à une solution permanente. Alors, toutes les opérations de paix tous les mandats du Conseil de sécurité doivent avoir toujours un bureau politique.
Alors, autre volet que vous cherchez à renforcer, c'est celui de la prévention ?
Oui, absolument. Il y a un consensus, mais la prévention dépend aussi de la volonté politique des acteurs dans chaque pays. Il faut, par exemple, de la part des Nations Unies, au secrétariat, qu'il y a plus de moyens, des gens qui sont vraiment spécialisés dans certaines questions. Il faut faire l'évaluation de chaque région. Il y a des situations, par exemple, en Afrique, que si on a eu des moyens de prévention, par exemple à Burundi, cette situation que moi je crois on aurait pu éviter s'il y a des mécanismes, des pratiques au secrétariat avec une coopération avec l'Union africaine. On peut vraiment intervenir, mais il y a des autres que ce n'est pas possible. Hein. La question de la Syrie, qui a beaucoup d'autres éléments contradictoires, des intérêts régionaux de différents pays, il y a des questions religieuses, ethniques. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile.
Alors enfin, tristement, autre sujet qui touche l'actualité, c'est aussi l'abus et la mauvaise conduite des casques bleus ou de soldats de la paix. C'est donc une question abordée aussi dans le rapport. Or, quelles sont vos recommandations ?
Nous disons très très clairement, il n'y a pas d'immunité pour n'importe qui des éléments civils des Nations Unies qui ont commis des cas d'abus sexuels. Dans ce qui concerne les casques bleus, ils ont d'immunité, mais ça ne veut pas que l'immunité soit impunité.
Les eaux du golfe de Guinée sont devenues périlleuses pour de nombreux navires pour cause de piraterie. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ce phénomène est né surtout des troubles liés à l'industrie pétrolière dans la région. Les attaques ont souvent ciblé des navires transporteurs d'hydrocarbures, dont les cales sont vidées et le contenu vendu au marché noir. Cependant, d'autres secteurs sont aussi profitables pour les pirates, comme l'explique Abdoulaye Batili, représentant spécial du Bureau des Nations Unies en Afrique centrale, au micro de Tsigué Chiferao.
Le golfe de Guinée est une région au carrefour des grandes routes maritimes internationales, l'approvisionnement par exemple en hydrocarbures. Et cette région du golfe de Guinée, en raison précisément de cette situation, est infestée par toute une série de pirates qui font de la piraterie en haute mer et quelquefois même pratiquement sur les côtes. Et aujourd'hui, la région de l'Afrique centrale est mobilisée. Il y a la Commission du Golfe de Guinée, mais au-delà de la Commission du Golfe de Guinée, c'est la CAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, et la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont tous mobilisés aujourd'hui pour travailler en commun, coordonner leurs efforts. Et c'est pourquoi le quartier général de cette activité est aujourd'hui installé à Yaoundé, au Cameroun. Et il faut maintenant mettre en place les ressources pour que ce mécanisme régional de coordination puisse être opérationnel. Et donc, sur ce plan-là, il y a eu déjà à Yaoundé la réunion en septembre. Et à la suite du sommet de Yaoundé qui a réuni la CDAO et la CAC, eh bien, maintenant, je pense qu'on va aller vers l'augmentation des capacités de cette structure. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et ce qu'on peut noter, c'est la volonté politique clairement exprimée par les États d'aller dans ce sens.
Quand on parle des pirates dans le golfe de Guinée, est-ce qu'on parle d'un pays en particulier ou bien est-ce qu'il s'agit d'entités qui viennent de différents pays, contrairement aux côtes de l'Afrique de l'Est où là on parle essentiellement des Somaliens?
Non, là c'est des entités qui viennent d'un peu partout. Bon, même si au départ, ces activités de manière intense ont commencé dans le delta du Niger, donc au sud-est du Nigeria, mais après ça s'est étendu en haute mer. Et il faut le dire aussi, ces activités de piraterie en haute mer sont liées avec le réseau international de la drogue, le trafic de la drogue, depuis l'Amérique du Sud, qui pénètre par le golfe de Guinée et qui traverse la forêt pour aller vers le Sahel, faire la coordination avec les routes de la drogue dans le Sahel, la Méditerranée, évidemment, pour aller en Europe. C'est pourquoi la question de la lutte contre la piraterie maritime est indissociable de la lutte contre la drogue et toutes sortes de trafics, les trafics par exemple de l'ivoire, les trafics des produits de la faune sauvage. Et tout cela, aujourd'hui, ça ressort de la responsabilité de la communauté internationale. Et c'est pourquoi notre bureau, l'INOCA, déploie des efforts avec les autres bureaux régionaux, en particulier le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, pour coordonner nos efforts et amener les États, bien entendu, à entreprendre ces actions de manière conjointe.
Et c'est avec Abdoulaye Batili que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.